Maître Jean-Pierre Ménard est spécialiste de la question. C'est un spécialiste du droit médical. Bonjour, Jean-Pierre Ménard.
Bonjour, M. Dréville.
Bon, on s'entend, là, on n'a pas tous les détails de l'histoire, mais à partir de ce que vous venez d'entendre, quelle était la condition que ne rencontrait pas Rémi Ouellet, d'après vous, pour obtenir l'aide médicale à mourir?
Comme vous dites, on n'a pas beaucoup de détails, donc c'est difficile pour moi de dire il manquait ça, il manquait ça. Je vous dirais qu'au niveau de la maladie, normalement, les cas de cancer en phase terminale, c'est de loin, c'est à peu près 80% des demandes qui sont acceptées. Là, son ami parle de à quel point le patient souffrait. Est-ce qu'on a bien évalué ces choses-là aussi? C'est un peu difficile de se prononcer. Ici, là-dessus, il va y avoir une enquête du coroner. Mm-hmm. Puis je pense qu'il va être important que le coroner examine pas juste les circonstances immédiates du décès, à savoir l'incendie, là, mais regarde un peu dans quelles conditions médicales était ce monsieur-là, puis quelle sorte d'histoire médicale il y avait, puis effectivement, qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux refus d'aide médicale à mourir. Est-ce que c'est le deuxième médecin qui n'était pas d'accord? Est-ce qu'on lui a dit qu'il était passé en fin de vie? Parce que le problème qu'on a vu, écoutez, on a vu différents problèmes d'application, puis ça, c'est malheureux parce que d'un établissement à l'autre, on a des fois des pratiques qui sont un peu différentes. Puis là, je ne porte pas aucun jugement sur le CI3S de Laval, là, mais on a vu, il y a certains milieux où on interprète très restrictivement les conditions. Autrement dit, quand on dit il faut que les gens soient en fin de vie, il faut que les gens soient très, 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 très en fin de vie, on me dit qu'il reste une semaine, deux semaines, trois semaines à vivre, alors que dans notre milieu, on interprète ça comme étant quelques mois de la fin de vie. Ouais. Moi, je suis intervenu déjà à quelques reprises pour aider des gens qui avaient été refusés. On a fait des démarches pour que ce soit reconsidéré ou réévalué, et finalement, les gens l'ont eu. Mais il y a eu des milieux où on interprétait assez restrictivement ce critère-là. Le reste, d'habitude, la maladie, les cancers, la maladie grave et incurable, c'est un des critères. Okay. Les souffrances intolérables qui ne peuvent pas être soulagées, là, il faudra voir qu'est-ce qui est arrivé ici.
OK. Le groupe qui vous a invité, eux autres pensent qu'il faut l'étendre aux personnes inaptes qui sont en stade terminal, qui ont des signes de détresse, par exemple, etc., etc.
Non, le groupe, parce que ça, c'est la Fédération québécoise des citoyens qui m'avait invité à participer à ça. Eux, ils rendaient publique une recherche.
Oui, c'est ça.
Faite auprès des proches des personnes atteintes, qui disaient que un pourcentage élevé de proches souhaitaient que les personnes inaptes à cause de maladie d'Alzheimer puissent recevoir l'aide médicale à mourir à un moment donné.
Exact.
C'est ça. Alors, on m'avait invité, moi, à intervenir là-dessus.
Et pourquoi vous ne pensez pas que ce serait une bonne idée que des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer puissent avoir l'aide médicale à mourir? Parce que, comme vous le dites, là, l'étude qui a été rendue publique ce matin démontre que 91% des proches aidants qui ont été interrogés dans l'étude, qui s'occupent notamment de ces personnes atteintes de l'Alzheimer, qui pensent qu'il faudrait l'étendre.
Bon, alors, regardez, on a fait un choix de société. On a dit l'aide médicale à mourir à cause de ses conséquences, à savoir la fin de votre vie. On a dit, écoutez, ça peut juste être les personnes qui vivent ça d'une part en temps réel au moment de la demande, qui peuvent le demander, puis il faut s'assurer qu'ils sont capables de donner, d'exprimer clairement et librement leur volonté en toute connaissance de cause de ce qu'on va leur faire, puis c'est un choix qu'ils ont, hein? Et deuxièmement, même s'ils font ce choix-là, ils peuvent le retirer n'importe quand jusqu'à temps qu'on l'administre. Bon. Alors là, dans le cas des personnes atteintes de Alzheimer, le problème, c'est que, bon, même s'ils l'ont exprimé avant dans une directive médicale anticipée alors qu'ils étaient aptes, le problème, c'est que souvent, ces directives vont dater de plusieurs années. Le problème, c'est que quand les gens vont rencontrer les autres conditions médicales pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, ils sont plus aptes à consentir ou à décider. Donc, impossible de savoir s'ils ont changé d'idée depuis ce temps-là, depuis le temps qu'ils ont fait les volontés. Impossible de savoir s'ils verraient les choses autrement. Par ailleurs, une partie importante des gens qui ont le médicament, même au stade terminal, ne sont pas vraiment souffrants parce qu'ils se rendent pas compte de leur état aussi. Le problème qu'on a, c'est de savoir qui va décider à quel moment, puis comment éviter, par exemple, toutes les situations possibles de conflit d'intérêts, par exemple, que les enfants disent, écoutez, on va demander le médicament pour le moment parce que on est fatigué, on est épuisé, c'est un fardeau, etc. Le cas des gens qui veulent hériter un peu plus vite, c'est des réalités, cela-là. Alors, il peut y avoir toutes sortes de raisons pour lesquelles les proches peuvent avoir un intérêt. Puis au niveau même de l'organisation du système de santé, est-ce qu'on pourrait être tenté de dire, écoutez, on va encourager les gens à demander ça? On a tracé une ligne qui est bien, bien claire. Puis je pense que cette ligne-là, malgré toute la sympathie qu'on peut avoir, parce que les proches, là, une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pour laquelle on fait ces demandes-là aussi, c'est le fait que le niveau de service donné par le système de santé est tout à fait inadéquat. Les soins à domicile, là, écoutez, pour les personnes atteintes d'Alzheimer, c'est une misère. Les gens ont besoin de 30 heures semaine, on leur en donne 4. Pas beaucoup de répit, pas de... Écoutez, il faut qu'on repense tout ce modèle de soins-là. C'est une réforme de fond qu'il faut faire, parce que d'ici 2025, on va avoir 250 000 personnes au Québec qui vont être atteintes, puis le système de santé a de la misère à s'adapter.
Oui, et on sait qu'il y a une consultation qui a été annoncée par le ministre Barrette sur cette question-là. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a pas mal de gens qui pensent que il faudrait l'étendre aux personnes inaptes.
Je comprends. Alors, il faut que moi, par contre, toute une partie de ma pratique, de ma carrière, c'est de la défense des personnes vulnérables. Puis il y a trop de risques. Regardez, là, je suis extrêmement sympathique à ça, oui. Mais les risques sont tellement importants. On n'a pas encore trouvé de manière de gérer ça nulle part dans le monde de façon correcte.
On a compris ça, Maître Ménard. La raison pour laquelle je vous bouscule un peu, c'est que je veux qu'on parle d'un autre sujet. Puis je le dis tout de suite aux gens qui nous écoutaient, là. Je vais vous demander votre avis au 790-9850 dans quelques minutes après la pause. Drainville@985fm.ca. C'est sur la cigarette, dans le fond, le tabac dans les CHSLD. Vous avez fait une sortie très sentie pour dire ça n'a pas de maudit bon sens d'interdire la cigarette, d'empêcher les personnes qui sont dans des CHSLD de fumer. Puis la raison pour laquelle vous l'avez fait, c'est que dans la région de Québec, ils ont décidé de... ils proposent en fait d'interdire la cigarette dans tous les établissements de santé, y compris les CHSLD. Ils veulent faire ça d'ici 3 à 5 ans. Et là, vous êtes sorti pour dire, non, là, vous allez m'arrêter ça, d'appliquer mur à mur une politique sans fumer. On ne peut pas faire ça. Pourquoi?
Deux raisons. D'abord, écoutez, dans le cas des personnes âgées, c'est leur milieu de vie substitut, c'est le milieu de vie. Chez vous, vous pouvez fumer, même si c'est à votre détriment, vous pouvez. Puis on présente toujours la cigarette comme étant un choix. Pour une partie du monde, c'est pas un choix, c'est une dépendance, puis les gens peuvent pas s'en défaire facilement. Puis écoutez, quand vous êtes rendu en CHSLD, votre milieu de vie est extrêmement restreint, votre qualité de vie est extrêmement difficile. On fait ça pour des fins de sécurité, pour protéger les personnes, mais on a des fumoirs organisés pour ça. Et obliger les gens à sortir dehors l'hiver pour aller fumer, les gens qui sont lourdement handicapés, lourdement dépendants. Je trouve que c'est tout à fait inhumain. Puis la loi permet de toute façon de réserver un espace pour ça. Alors je trouve que la politique...
La loi, attendez un peu, là. La loi actuelle permet des fumoirs à certains endroits.
Exactement.
Et elle permet même qu'on fume dans la chambre, en autant que les chambres des fumeurs soient regroupées dans un seul secteur pour pas incommoder les gens du reste de l'étage ou de l'édifice.
Et là, on veut, au niveau de la politique, donc pratique administrative, là, puis ce qu'on dit, c'est qu'on dit les gens sont déjà, puis on entend toutes les dans la pratique ministérielle, là, les gens qui vont les CHSLD sont tellement lourdement handicapés que, dans le fond, les empêcher de fumer, c'est pas... ça veut pas dire grand-chose. Alors, je trouve ça pas correct, pas respectueux des personnes. Puis en santé mentale, là, on a l'autre problème aussi, des gens qui sont gardés à l'hôpital contre leur gré, qui peuvent pas fumer parce qu'on n'a pas de personnel pour les accompagner dehors pour aller fumer. Alors ça augmente beaucoup, beaucoup la tension sur les étages. Ça rend les gens agressifs, déprimés. Et on a fait ça de façon beaucoup trop rigide. On devrait avoir un petit peu, je dirais, pour les clientèles captives, comme la clientèle des CHSLD, la garde, soit gardée contre leur gré en santé mentale, on devrait avoir un processus qui est appliqué avec un peu plus de flexibilité.
Un peu plus de souplesse.
Moi, je suis pas favorable du tout aux politiques. Je suis un petit tabagiste aussi, mais je pense qu'on a dépassé un peu la ligne. Là. Je pense que ça devient presque une religion. Là. Pour dire au monde, là, vous arrivez à l'hôpital, vous arrêtez de fumer. Mais ça, je pense que d'abord, la dépendance de la cigarette, c'est pas du choix des personnes. Puis arrêter de fumer, c'est un traitement. On peut pas imposer ça aux gens qui ne le veulent pas. Alors, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus flexible par rapport à ça.
Jean-Pierre Ménard, j'appelle que vous êtes avocat spécialisé en droit médical. Merci.
Merci. Au plaisir.
Et dans un instant, chers auditeurs, on va prendre vos appels. Est-ce que vous êtes favorable, vous? Est-ce que vous pensez, là, toute la société québécoise et les sociétés occidentales, de façon générale, se dirigent de plus en plus vers des environnements totalement sans fumée? Est-ce qu'il est temps maintenant d'étendre ça aux CHSLD, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur? Ou est-ce que vous êtes plutôt de l'avis de Jean-Pierre Ménard qu'il faut faire preuve de souplesse pour des personnes qui ont 80, 85, 90 ans, qui sont en fin de vie nécessairement, hein? c'est ce que tu veux, et pour lesquels, ben parfois, c'est comme un petit plaisir qui leur reste. Est-ce qu'il faut trouver une espèce de d'accommodement? Est-ce qu'il faut mettre en place un cadre qui reste souple? Alors, on va vous demander votre avis, donc au 790-9850 ou encore par courriel drainville@985fm.ca tout de suite après la pause.